c'est votre web radio.
Cetaradio.fr. C'est ta radio.
C'est ta radio.
L'amour est une descente à vélo, un tour de France, un gros joint. Quand on sent l'air au travers du maillot, en roue libre et bien sûr sans les freins. Carla retourne, Carla retourne, retourne là. J'ai jamais pris de fusée horaire, toujours suivi les mêmes schémas. Carla retourne, Carla retourne, retourne.
Casse pas le micro, Nico.
À Radio Vélo, la dernière de la saison. Nous sommes le mercredi 29 juin. Bienvenue, Julien.
Bonsoir à toutes et à tous.
En cette semaine de départ du Tour de France, nous avons également Mélanie.
Bonsoir.
Bonsoir, Mélanie. Et notre ami Benjamin.
Bonsoir, tout le monde.
Bienvenue et dernière émission de la saison que nous allons partager également au téléphone, du moins les premières minutes avec notre ami Nicolas de l'actu du cyclisme. Nicolas, est-ce que tu nous entends?
Oui, je vous entends très bien et c'est un plaisir d'être en votre compagnie pour une troisième fois. Merci à vous de m'avoir encore invité dans l'émission.
Merci Nicolas, et puis on aura également Max tout à l'heure un petit peu pour parler des championnats de France amateurs, on va parler des championnats de France, on va parler également du Tour de France avec les petits débats, les petits pronos. Vous pouvez aussi réagir sur le Twitter @radiovelo31, vous donner notre avis. Bref, on passe une heure d'émission 100% cyclisme ensemble. On va également réagir un petit peu à tous les sujets de l'actualité, ce qu'on a vu à la télé par exemple avant-hier soir. On va parler également de Nasser Bouhanni, on va parler de tous ces coureurs qui sont là, ceux qui ne sont pas là. Bref, le Tour de France, il y a de quoi dire. Les réactions comme si on était à la maison, c'est dans Radio Vélo et on va se mettre un petit truc qui booste pour commencer cette émission ensemble jusqu'à 20h. C'est la dernière de la Xème saison de Radio Vélo, on les compte plus. Et puis, on se retrouvera bien évidemment très bientôt. Radio Vélo est lancé. Avec un nouveau champion de France, et bien lui en a pris. On le verra sur le Tour de France, ce maillot. C'était pas le cas l'an dernier. Nous n'avions pas le champion de France sur le Tour de France. Cette fois-ci, c'est Arthur Vichot qui a endossé donc le maillot tricolore. Arthur Vichot, qu'on a déjà eu plusieurs fois dans l'émission. Il ne peut pas être avec nous ce soir car il est dans les transports pour aller au Tour de France. Mais on le remercie en tout cas de sa sympathie. Arthur qui avait déjà eu le maillot. Et c'est déjà son deuxième maillot tricolore, Julien.
Et oui, à la deuxième place, il y avait aussi Tony Gallopin, si je me trompe pas. Et il a joué de très bonnes circonstances. Certes, oui, j'entendais les commentaires dire que comme il avait déjà gagné, il avait moins de pression que les autres. Mais championnat, même si on a déjà eu un maillot, la pression elle y est quand même. Hein.
Et puis il était à domicile, donc la pression, il devait quand même
l'avoir. D'autant plus, et voilà, il a vraiment vraiment bien manœuvré. Et tout, voilà, je pense que beaucoup de coureurs se sont focalisés sur Thibaut Pinot et il a vraiment joué sa carte à fond et ça l'a très bien réussi. Ça n'est pas lui de peu, mais en tout cas, il a très très bien manœuvré sur cette épreuve. Bon, encore une fois, où on a eu la décision qui s'est faite d'aller 25-30 derniers kilomètres sur une très très longue course. Des fois un peu plus courte, ça serait pas plus mal.
Nicolas, qui est avec nous au téléphone, qu'est-ce que tu retiens, toi, de ces championnats de France? Il y a quelque chose qui t'a marqué particulièrement?
Je retiens une course de mouvement, je retiens une course quand même qui a commencé à bouger assez tôt, même si ça s'est calmé par la suite. Et il y a un homme quand même qui a été extrêmement régulier et qui m'a un peu marqué, c'est Tony Gallopin, qui pourtant avait couru le contre-la-montre quelques jours plus tôt. Il était arrivé à bout de souffle, il était épuisé au bord du malaise, presque sur la ligne, à ce que j'ai entendu dire. Apparemment, il était vraiment blanc.
Ouais, Nicolas, on ne t'entend pas bien. Je ne sais pas si c'est ton téléphone. On va te rappeler tout de suite, d'accord?
D'accord.
Merci.
Oui, il disait qu'il y a des coureurs qui ont fait des malaises, notamment.
Au contre-la-montre, Tony Galopin, il a perdu son bidon à près de 500 mètres sur un Dodane. Là, il était bien parti. Et Sylvain Chavanel avait pris un énorme coup de fou également. Thibaut Pinot, on l'a vu s'arroser tel, désolé pour la comparaison, mais tel Floyd Landis, allez, 2006. Non, mais c'est vrai que sur un contre-la-montre, c'est rare. Je crois que c'est même jamais vu.
C'est très rare de s'arroser sur un contre-la-montre. On n'a pas forcément le temps. Et là, c'est
qu'il... On voyait qu'il était à domicile puisque les spectateurs qui devaient être des amis étaient postés aux endroits stratégiques dans les côtes, dans les faux plats montants pour lui permettre de s'arroser abondamment. C'était pas lui qui avait fait le meilleur départ, il était derrière Jérôme Coppel et Sylvain Chavanel. Alors qu'on aurait pu penser en tant que grimpeur, vu que le départ était le plus dur, c'est là qu'il allait creuser les écarts, et non. Il a montré que les contre-la-montre longs, c'était vraiment dans son type d'effort favori. Et c'est ensuite, finalement, c'est sur les faux plats descendants, je crois, qu'il a véritablement creusé l'écart, là où tout le monde s'est écrasé. Lui, il a continué sur son rythme et c'est ce qui lui a permis de remporter haut la main ce championnat de France contre-la-montre, qui était son objectif. Hein. Il voulait surtout gagner le contre-la-montre plus que la course en ligne.
Bah, c'est vrai que ses roues d'entraînement, il avait sacrément bien préparé. Et après, voilà, les conditions météo sont un élément complémentaire à la difficulté de la course. Et des coureurs sont plus sensibles que d'autres. Après le fait de s'arroser, l'organisme il passe de très très chaud à d'un coup choc thermique. Les coureurs ne supportent pas ça et certains ont les jambes coupées. D'autres, au contraire, ça leur permet de vraiment de prendre un bon coup de fouet et de se relancer. Ça a sûrement joué. C'est sûr que quand on prend un coup de chaud comme a pris Tony Galopin, c'est sûr que ça, l'organisme il a du mal à récupérer derrière et ça en prend un coup pour la suite des épreuves. Donc, est-ce que peut-être ça lui a manqué aussi cet état de fraîcheur un petit peu pour leur course en ligne? C'est peut-être possible aussi. En tout cas, bon, il est quand même devant, quoi.
Oui.
On a retrouvé Nicolas.
On va essayer. Est-ce qu'on entend bien Nicolas? Voyons. Est-ce que tu nous entends bien?
Oui, je vous entends très bien.
Ah, c'est mieux, impeccable.
C'est pas le cas tout à l'heure, donc malheureusement, je sais pas trop ce que vous avez dit. Donc j'espère que je vais pas répéter ce que vous avez dit.
Et non, en fait, on avait eu les micros piratés par Cash Investigation, je pense. Donc,
c'est bien ce que je me disais aussi.
On disait que j'ai pu à France, c'était dur, non?
Benjamin parlait du contre-la-montre où des coureurs s'étaient fait un petit peu arroser sur des points stratégiques parce qu'il faisait très très chaud. Des coureurs ont fait des malaises, comme tu le disais toi tout à l'heure. Et c'est vrai que ça a mis à rude épreuve les organismes. Et peut-être que certaines n'ont peut-être pas forcément bien récupéré pour l'épreuve en ligne sur un circuit qui était très difficile. Donc ça fait partie de ces doubles épreuves qu'on fait, aussi bien le contre-la-montre que la course en ligne, quoi. Et Nicolas?
Oui, moi j'avais fait également, j'avais insisté sur Tony Galopin qui effectivement, comme beaucoup des coureurs qui ont fait le chrono à fond, était arrivé blond comme un linge à l'arrivée à la limite du malaise, vraiment épuisé. C'était impressionnant de les voir, la fatigue des coureurs à l'arrivée, et qui pourtant, trois jours plus tard, était aux avant-postes sur la course en ligne. Ça l'a pas empêché de jouer la victoire. Et vraiment, il tourne autour de ce titre de champion de France, que ce soit sur le chrono, où là, il a fait troisième. Deuxième cette année des championnats de France avec Arthur Vichot qui gagne. En 2013, déjà, Arthur Vichot gagnait. Il était dans le bon coup dans le final. Il était déjà trois, sauf que cette fois-ci, il faisait troisième. Donc voilà, il tourne autour et c'est vraiment impressionnant à quel point il lui manque toujours un petit truc pour aller le chercher avec Arthur Vichot qui est vraiment sa bête noire. Et également, ce que j'aurais aimé souligner, c'est sa performance contre la montre. Je sais qu'il avait particulièrement préparé les championnats de France. Je pense pas qu'il avait particulièrement préparé l'épreuve du contre la montre. C'était une spécialité. Quand il était chez les jeunes, il brillait beaucoup dans ce domaine. Donc, à voir. Est-ce qu'il pourrait, pourquoi pas, essayer un peu d'approfondir ses qualités en chrono, à voir s'il pourrait, pourquoi pas, essayer de jouer avec les meilleurs. Après, il faut dire quand même que ce contre la montre a eu dans des conditions assez spéciales, avec Jérôme Coppel et Sylvain Chavanel qui, on l'a vu, à cause des conditions, ont totalement explosé. Au dernier intermédiaire, Jérôme Coppel, Sylvain Chavanel et le vainqueur Thibaut Pinot se tenaient en 7 secondes. Et dans les derniers kilomètres, les deux hommes, les deux anciens d'IM Cycling ont totalement explosé. Ils arrivent à 1 minute 21 et 1 minute 28 respectivement.
Ouais, pour le championnat de France en ligne, en tout cas, c'était beaucoup plus serré jusqu'à la fin. Ils sont arrivés à plusieurs.
Oui, ils sont arrivés à plusieurs et en ligne. C'est vrai que Arthur Vichot a parfaitement joué le coup. Hein. Alexis Vuillermoz était forcément dans une position assez inconfortable puisqu'il était largement moins rapide que ses rivaux au sprint, donc forcément c'était inconfortable pour lui. Tony Galopin a peut-être été un peu paralysé par l'enjeu, on l'a vu tenter de sortir vers la flamme rouge, il savait pas trop s'il le faisait complètement, est-ce qu'il attaquait, est-ce qu'il attendait le sprint. Et Arthur Vichot, lui, a gardé son sang-froid, et comme il a dit, avoir déjà été titré, ça a été un avantage pour lui. Donc il a réussi à garder son sang-froid dans le sprint, il a été impérial.
Mais maintenant, on parle de Galopin qui tourne autour, c'est vrai, mais je pense que c'est également comme Arthur Vichot, parce que il est avantagé par ses parcours durs, puisqu'on parlait quand même que c'était un des championnats les plus durs de ces dernières années, mais ça reste des championnats pour surtout pour puncheurs finalement. D'ailleurs, on le voit, Vichot, Villermoz et Galopin, c'est des puncheurs. Et quand même, même si on parlait d'un championnat super dur pour grimpeur, tout ça, je suis pas d'accord, même si les côtes sont dures, vu que c'est du 1,5 km, 1 km, ça reste quand même un type d'effort ardennaise, quoi. Donc les grimpeurs peuvent s'y mêler, mais tu auras toujours des puncheurs avec une pointe de vitesse qui seront devant. Et je me disais, à quand un circuit avec un petit col ou comme charade, où là c'était vraiment.
Mais là, on nous l'avait vendu comme le plus dur.
Je veux dire, c'est un type d'effort où, quand même si tu. Sam Dumoulin, c'est pas un grimpeur.
Mais justement, je regarde, il fait 4. Alors, moi je reviens à une chose. Est-ce qu'on est obligé de faire 250 km avec un circuit comme ça pour avoir une course qui va se débrider? Est-ce qu'on n'en met que 180 avec le même circuit, ou on risque d'avoir une course beaucoup plus débridée avec peut-être plus d'écart, plus d'attaque, ou là, voilà, il s'est passé quoi? Il s'est passé rien jusqu'à mon arrivée. Donc,
Il y a eu cette grosse échappée là, oui, qui a été annihilée par l'armée de terre. Peut-être plus de monde que d'habitude, mais finalement, ça n'a pas suivi, puisqu'il y avait Europcar avec Cocard, donc personne ne voulait rouler avec. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a eu ce moment où les 5 plus grosses équipes françaises sont représentées, personne ne roule derrière, jusqu'à ce que Maxime Bouet relance pour aller gagner à la Philippe.
Il a fait un sacré boulot pour sacré boulot.
Maxime Bouet, d'ailleurs, qui ne sera pas sur le Tour de France, malheureusement. Ensuite, là, ça a commencé à vraiment bouger, mais la FDJ, ils étaient un surnombre complet. Bon, le final leur donne raison. Mais moi, je me suis dit, pendant une bonne partie de la course, mais c'est pas possible, mais FDJ, ils veulent pourrir le championnat ou quoi? Il n'y avait pas de mouvement, il y avait encore 80 coureurs dans le peloton, alors que si, qu'on avait vu quelques tours avant, ils avaient accéléré, ça s'était retrouvé à 40 très vite. Moi, je préférerais, comme tu dis, un championnat plus court, mais plus dur. Genre avec un col de...
T'es pas obligé de faire plus dur, c'est court qu'il faut la course. Tu viens de le dire.
Je parle plus pour un type de coureur...
Après, tu avantageras plus un grimpeur qu'un puncheur.
Ces dernières années, on a quand même beaucoup de championnats qui avantageaient des sprinters. C'est pas parce que tu mets une cote de 1,5 km à 5% pour dire qu'il y a une bosse dans les circuits qu'ils vont pas passer les démarres, moignes, tout ça. Hein. D'ailleurs, on le voit au dernier championnat. Quand tu vois le championnat d'Europe qui va y avoir, je crois que c'est en septembre ou en août, où ils font, je crois, 7 ou 8 fois le Col d'Aise. Là, ça, c'est un championnat pour grimpeurs. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait bien qu'au moins une fois tous les 10 ans, il y ait un championnat comme ça. Et ça vaut également pour les championnats du monde.
Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, tu mets le même circuit qu'il y a eu ce week-end. Tu mets 180 km avec des coureurs comme Alaphilippe, etc., qui vont brancher dans les côtes. Je te garantis que certains coureurs, tu ne vois pas l'arrivée.
Ah, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Ça aurait pu être bien pire.
Voilà, ça aurait pu être bien pire et finir à beaucoup plus. Tu l'as bien le dire. Sur un tour, ils étaient plus que 40 quand ils sont arrivés. Donc, c'est que le circuit s'y prêtait. Parce que s'ils mettaient un coup de pression, il y a la voie du monde qui allait sauter, quoi.
C'est un circuit que je considère pour homme fort.
Oui. D'accord. C'est pas pour un grimpeur.
Il faut être puncheur, hein. Démarre, je l'aurais pas.
Et sûr qu'un circuit comme Charade ou,
Charade, tu savais très bien que ça allait se finir à 15.
C'est clair.
Bon, il faut l'annoncer aussi, hein. Est-ce qu'un organisateur veut
qu'il y ait 15 coureurs à l'arrivée? Je ne pense pas.
Je sais pas, parce qu'après, t'as plus ou moins l'assurance quand même que le champion de France, tu le vois, dans les 10 premiers Tour de France, sans doute.
Oui, mais pour un organisateur, c'est pas non plus valable d'avoir 15 coureurs à l'arrivée, quoi. C'est ça qu'il faut voir aussi.
Après, pour les téléspectateurs, enfin, ceux qui suivent le vélo, ce qu'ils veulent un jour, c'est quand même revoir un circuit où chaque tour, un peu comme une étape de montée du Tour de France.
Et raccourcis-le, oui. De faire 250, sais que tu mets que 180.
Mais je pense qu'il y aura toujours un type de coureur qui n'y serait pas sur le circuit dont je parle.
Oui, c'est sûr.
Mais c'est plus ça, en fait. Vraiment, c'est le type de coureur. Je parle pas sur le déroulement, là, je suis d'accord avec toi. Je parle vraiment sur le type de coureur. Pinot, dans la configuration actuelle, je l'annonce, il n'y aura jamais un championnat de France sur route.
Qu'est-ce que t'en penses, Nico,
grave.
Nico. Nico, qu'est-ce que t'en penses?
Moi, je suis assez d'accord que c'est vrai que les organisateurs, que ce soit pour les championnats du monde et pour tous les championnats de France et les championnats nationaux, n'ont pas intérêt à mettre un grand col, car forcément, après, la participation va s'en ressentir. S'il y a un grand col pour grimpeurs, tous les puncheurs ne vont pas venir et le plateau de coureurs sera beaucoup moins relevé. L'objectif, c'est que ce soit un parcours qui puisse plaire à tout le monde, sprinter qui passe bien les bosses, aux puncheurs, aux grimpeurs qui ont les qualités de puncheurs pour avoir le meilleur plateau. Et chaque année, que dans tous les championnats, que ce soit les championnats du monde, même si parfois c'est pour pur sprinter, on essaie, les organisateurs essaient de trouver le meilleur compromis. Et c'est vrai que pour nous, pour les spectateurs, de notre pur point de vue de spectateurs, c'est forcément, parfois on aimerait bien voir des grimpeurs et des coureurs, que ce soit avec les maillots champions du monde ou les maillots de champions nationaux, et surtout celui de champion de France, à l'avant sur le tour des bons grimpeurs. Et c'est vrai que parfois on aurait envie de voir ça.
Mais moi je pense que c'est un débat qu'on avait déjà eu, je sais, en septembre dernier, mais je pense que tout comme il faut certaines années un championnat, que ce soit national ou du monde, pour sprinteurs, comme au Qatar par exemple, je pense qu'il faudrait parfois, je ne dis pas chaque deux ans, hein, je parle de, on va dire chaque cinq ans ou six ans, un championnat pour grimpeurs. Et également, là c'est un peu plus difficile à trouver, mais c'est possible également, un championnat pour flandriens. Ça permettrait d'avoir un roulement tout en n'occultant pas certains coureurs. Et peut-être qu'on aurait des coureurs, comme à l'instar de Nibali sur le Tour de France 2014, qui se découvriraient parce qu'ils ne sont jamais venus sur les pavés. Par exemple, des talents de Flandriens, ils se diraient, ah, et peut-être que, ou d'autres coureurs qui sont bons sur les championnats, sur une course de championnat, c'est spécial un championnat, les tours de circuit.
C'est particulier.
Qui, sur un col, on ne parle pas, qu'on soit d'accord, hein, quand je parle, je ne parle pas de faire quatre fois le tour malais, hein, je parle de col moindre, qui se diraient, ah, et peut-être je passe mieux les bosses, peut-être je pourrais tenter les classements généraux des courses d'une semaine, ou peut-être même plus. Et on aurait, c'est peut-être la participation, ça ressentirait, mais après, si on commence à chaque fois à penser, il pourrait pas y avoir telle personne ou telle personne, tu fais jamais rien, quoi. Ouais, tu restes dans des parcours bâtards, où c'est toujours le même type de coureur, Galopin, Vichot, allez, dans les cinq prochains championnats de France, si on accepte ceux qui seront pour pur sprinter, je les vois faire au moins 3 ou 4 top 5 chacun.
Bon, Galopin, il va en faire d'autres. Et Alaphilippe, bon, c'était le favori cette année.
Oui, mais c'était le favori, mais il était un petit peu esselé malgré le gros boulot de Maxime Bouy. Ouais. C'était compliqué à gérer parce que, bon, autant à FDJ, quand t'es 15 coureurs, tu manœuvres différemment. Mais là, et c'est pas qu'il a pas roulé, c'est pas qu'il a
mais
pas
mis fort. Hein.
Mais il a été très fort.
Quand il est parti, c'était impressionnant. Il y avait personne dans sa roue. Il y a Bardet qui a essayé d'aller, Pinon qui était derrière. C'était là on a vu le meilleur puncher français
à l'action. Il y a eu d'autres championnats, Nicolas, quand même.
Oui,
on parlera des championnats amateurs avec Max, hein, tout à l'heure, mais peut-être un gros plan sur d'autres championnats qui t'ont marqué.
Oui, il y en a, il s'est passé des championnats nationaux, c'est la même semaine pour presque tous les pays. On peut noter, ça pourrait avoir l'importance en vue du Tour de France, la victoire d'André Greipel sur les championnats d'Allemagne. Et à la troisième place, on retrouve Marcel Kittel. Et oui, au terme d'un sprint massif, c'est bien le coureur de la Lotto Soudal qui a été plus rapide que son grand rival Marcel Kittel. On risque de voir beaucoup d'affrontements entre eux sur le prochain Tour de France et ça pourrait donner l'ascendant psychologique à André Greipel, notamment pour le premier sprint. Et on rappelle qu'à la crise de première sprint, il y aura un maillot jaune. On peut également parler de Philippe Gilbert, qui est à la recherche actuellement d'un contrat. Et sa recherche va être facilitée, puisqu'il s'est emparé de la tunique de champion de Belgique sur route. Il a réglé au sprint Tim Wellens dans un sprint à deux. Ils étaient montrés les plus forts sur un parcours assez exigeant également en Belgique. Et on peut également parler de la Grande-Bretagne, où il y a un homme qui est un peu déçu. C'est Marc Cavendish qui s'est classé deuxième. Et oui, également au terme d'un sprint massif, tout comme en Allemagne, eh bien, ce n'est pas le coureur de la Dimension d'attaque qui est sorti vainqueur comme on aurait pu l'attendre, mais bien Adam Bliss de la Tinkoff. Donc, grosse déception pour Marc Cavendish à quelques semaines du tour. Ça pourrait un peu être.
C'était pas vraiment un sprint massif quand même. La Grande-Bretagne, ils étaient 15 sur le final.
Oui, mais c'est quand même au sprint qu'on s'attendait à la manière, par exemple, d'un Nasser Bouhanni l'an dernier en 2015. On s'attendait à le voir également remporter le sprint. Nasser Bouhanni lui avait joué de malchance. La marque Cavendish n'a pas réussi à régler le sprint.
Benjamin, il y a d'autres championnats qui t'ont marqué. Oui, Nicolas, tu voulais dire rapidement un autre?
Il y a quelque chose d'assez surprenant. C'est un petit pays, c'est la Slovaquie. C'est Sagan qui a gagné en Slovaquie. Mais bien, Juraj Sagan et non pas le champion du monde, Peter Sagan, qui a été battu par son propre frère. c'est assez étonnant de le voir perdre ce titre qu'il possédait depuis maintenant de nombreuses
années. Ça se règle à Noël, les titres.
Ouais, mais c'est surtout qu'il y a également... bon, déjà, il faut féliciter Jurage Sagan. Parce
oui, d'ailleurs, on va l'appeler. Bravo, Jurage.
On parle souvent, ouais, Jurage, il est pro parce que c'est le frère de Peter.
Bah, ça aide quand même.
Il est quand même champion national de son pays.
Et il l'a pas volé.
Et de plus,
sur Mazamé, ça se faisait aussi, les frères.
Ouais. Peter Sagan, il a le maillot de champion du monde. Ça lui sert à rien d'avoir le maillot de champion de son pays.
Non, ça gêne.
Il ne le portera pas. Peut-être à partir d'octobre.
Il ne faut pas que c'est un coma avec un maillot vert.
Toi, tu sais pas, t'as porté plusieurs maillots à la fois.
Si, moi, je porte ce que vous voulez.
Maillot de bain.
Italie, Espagne, ça vous a pas.
C'est Nizzolo, je crois, qui gagne en Italie. Lui qui gagne très très peu, même si ça n'a pas intérêt. Alors, niveau second ou troisième, là, ça y va.
C'est un Rojas, Nizzolo.
Ouais, ou peut-être c'est Rojas qui est un. C'est peut-être Rojas qui est un
Nizzolo. En Espagne,
c'est Rojas.
Comme quoi.
Tout arrive.
Tout arrive dans le cyclisme. On va te remercier, Nicolas. Peut-être tu voulais rajouter quelque chose avant d'aller te reposer cet été.
Non, je pense que j'ai été assez complet. On peut également noter peut-être la victoire d'un sprinter peut-être pas encore très bien connu du grand public aux Pays-Bas, c'est Dylan Groenewegen. Il est peut-être encore un peu jeune, il va découvrir le Tour cet été, mais je peux vous dire qu'il va être à suivre dans les prochaines années. Ce coureur a un immense potentiel, il pourrait devenir l'un des hommes forts du sprint.
Bon, très bien. Qu'est-ce qu'ils font sur l'Instagram, l'actu du cyclisme cet été? Ils sont occupés?
Je vais être très très occupé à faire ça avec des interviews, toute l'actu du cyclisme sur l'actualité du cyclisme, le compte Instagram. Donc ça va être très chargé tout au long de l'été et pas seulement en juillet, même en août, il va y avoir de nombreuses courses.
Ok, bon, mais ça marche à très bientôt.
Il n'y a pas de vacances alors?
Pas de vacances, on se repose pas.
Allez, à très bientôt, merci Nicolas.
À très bientôt, merci
d'avoir
accueilli.
Au revoir, à bientôt.
Ciao.
Il y a un petit coucou également sur le Twitter à Bruno qui nous envoie un petit message.
En train de rouler
en mode
cocaine,
vélo, écoute radio vélo, une heure de plaisir.
Du soleil parce qu'ici n'a pas du soleil.
Alors merci Bruno. Et puis n'hésitez pas bien sûr à réagir sur le Twitter @radiovelo31. On va voir Max également dans quelques instants, non? Les championnats nationaux, Benjamin.
Ben, je suis dégoûté d'un coureur régional dont on avait parlé la semaine dernière, qui a eu un problème mécanique dans le dernier tour.
Ah bon?
Et qui bouge quand même 1:30 tout seul pour revenir sur le second peloton, enfin le peloton juste derrière les favoris pour aller chercher une 19e place. Je parle de Julien Loubet. Et c'est bien possible que sans cette, j'ai regardé sur Strava les temps sans cette ennui mécanique, je pense qu'il était devant et peut-être même.
Les régionaux ont bien marché, hein, Quentin Paché.
Ouais. Paché, il a été intenable, incroyable.
Il m'a sacrément surprise au niveau de sa forme, vraiment, vraiment bien. Quoi. Puis pareil.
Il y avait Anthony Pérez qu'on a vu également.
Ouais. Anto Marchi de Robéis Métropole qui a sacrément bien roulé aussi. Romain Sicard qui revient bien en forme.
Et il avait décalé son Big de forme parce que lui, il va doubler. Il va faire normalement le Tour de France et la Volta. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas vu en début d'année. Il a fait top 10 au critérium international.
Et c'est vrai qu'il revient bien. Là, hein.
Mais, ouais.
Direct Energy le présente comme son leader.
Oui, mais ils ont raison.
Je pense que...
Il y a Jean Desbos également, comme la dernière Vuelta.
Qui pourrait bien aider.
Moi, je ne le vois pas dans le top 10, Icar, mais c'est bien de le voir en fin de
session. Tu ne vois pas dans le top 10, tu sais. Je l'ai trouvé sacrément bien. Il y a une première semaine de tour, on en reparlera après, qui va lui permettre.
C'est mon avis. Après, je serais très content de le voir.
De finir sa réparation et pourquoi pas, après, bien se placer.
Bon, on va parler de toutes ces personnes qui vont au Tour de France, qui n'y vont pas dans quelques instants. On va revenir aussi sur les championnats de France amateurs. Peut-être on va passer un petit coup de fil à Max et on va suivre tout ça. C'est l'heure de faire la petite coupure là, petit détour vers le studio CETA Radio et on revient dans
CETA Radio Pop Rock
Sport. Entre sessions acoustiques et interviews, retrouvez un groupe ou un artiste du Nord-Pas-de-Calais pour une session live inédite. It's the Nord Acoustic Show by CETA Radio.
L'amour est une descente à vélo, un tour de France, un gros joint. Quand on sent l'air au travers du maillot, en roue libre et bien sûr sans les freins, car la retourne. Carla
tourne là. Et pourquoi pas faire le tour de la Terre? Il est quelle heure au Guatemala? J'ai jamais pris de fusée horaire, toujours suivi les mêmes schémas. Car la roue tourne, car la roue tourne, retourne là.
Je ferais dû mettre le jingle cochonou là, ça te va bien ce soir.
Merci Julien, merci. Je vois que
ça
tu
te va très très bien.
Cochonou, que tu m'as saucisson affiché déjà sur internet cochonou. Comme...
Ah, je le trouvais. D'ici ce soir, je le retrouve.
Ah super, il sera content d'avoir une pub cochonou. Je sais pas si il m'a dit cochonou. C'est Max qui est avec nous. Max, est-ce que tu nous entends?
Ouais, nickel. Salut à tous.
Bon,
salut Max.
Salut.
Est-ce que tout va bien depuis les championnats de France? Tu étais monté du côté de Vesoul, je sais.
On a repris une vie normale, on va dire, parce que pendant deux jours, c'est vrai que deux, trois jours, on déconnecte.
Ouais.
On est sur les pentes, c'est vrai que c'est un événement juste de l'année, un seul. Donc, il faut ouvrir les yeux, il faut regarder, il faut apprécier le moment, même si c'est loin. Il y a beaucoup de routes pour nous, donc c'était vraiment dur et fatigant. Après, une fois qu'on est là-bas, c'était vraiment agréable, quoi, de voir l'engouement qu'il y a dans une ville quand ils préparent un championnat comme ça et tous les gens qui étaient sur le bord de la route. On voit quand même que quand c'est bien préparé et bien fait, c'est sympa.
Ok. Du côté de Vesoul, pour toi, ouais, beaucoup de monde, vraiment, ça a été une belle réussite. Du coup, déjà combien de temps il faut alors pour aller à Vesoul, Max, depuis Toulouse?
Franchement, je ne referai pas deux fois, hein, parce que c'est vraiment fatigant. Vous pointez 8 heures de route.
Ah oui, c'est le bout de la France.
Voilà, avec un arrêt, tout ça, manger. Bon, nous, la fin de deux fois, on est parti en fin de journée, on a arrêté de dormir à Chalon-sur-Saône. Entre Clermont et Chalon-sur-Saône, et puis après on a terminé le lendemain matin la route. Et l'après-midi, Achille, il allait reconnaître le circuit. Enfin, je l'ai fait avec lui quand même, c'était intéressant de voir la difficulté du circuit. Et c'est vrai que cette année, c'était vraiment dur. On entendait les pros aussi, quand ils reconnaissaient le circuit, qui disaient que c'était plus dur que chantonner. Donc, c'est encore loupé. C'était vraiment. C'est beau, se faisait mal. Et c'est vrai que deux jours avant ou la veille, quand on reconnaissait le parcours, il y avait quand même déjà des gens qui prenaient des photos, qui étaient dans les parages, déjà installés. Enfin, c'est pas Bretagne, mais c'est quand même pas mal. Hein.
Ouais,
c'était motivé. Hein.
Il y avait du pourcentage, la route ne rendait pas. C'était quoi vraiment tes sensations?
Malgré que la bosse soit très dure, c'est sûr, elle était longue et dure, la route n'était pas très mauvaise. Hein. Il y avait une bonne ligne droite, la bonne route avant l'arrivée. La bosse, ça allait, franchement. C'était juste que c'était dur. Après, c'était un beau circuit, mais dur, quoi. C'est dur.
Qu'est-ce qu'il faut retenir des championnats de France amateurs? On a déjà parlé un petit peu des professionnels avant de t'avoir au téléphone. Les championnats de France amateurs, que ce soit pour les coureurs régionaux ou sur l'ensemble de la course, qu'est-ce qui t'a marqué?
Pour commencer par les régionaux, on se faisait pas trop de lueurs du côté du comité. Parce que avec Ellie et Achille, c'était leur première année, premier championnat de France, ils sont jeunes. Quand il y a 194 mecs au départ avec toutes les DN qui ont l'expérience de ça, ça allait être dur. Donc leur but, c'était de s'accrocher un maximum. Et de pouvoir pas les terminer, parce que moi je leur ai dit qu'il y a 194 mecs au départ, mais qu'à l'arrivée il n'y avait pas d'avoir beaucoup, quoi. Et si on s'accroche, on fait toujours une petite passe sympathique. Mais ils ont tout donné, ils ont fait ce qu'ils ont pu, franchement ils se sont vraiment battus. Sauf qu'après, c'est dur, manque de placement, et ils ont abandonné vers le 120e kilomètre. Et c'est vrai que c'était juste après la grosse vague des abandons, et ça a continué derrière. Et puis en plus, le tour suivant, il y a eu un gros orage qui est arrivé, donc. Non, ils ont fait ce qu'ils ont pu, surtout je pense qu'ils ont appris, et ça me fait penser un peu à tous les pros qui font leur première année pro, qui font leur premier championnat de France. Ils ont peur des 250 km qu'il y a au programme, et souvent on voit que chaque année, ils abandonnent aussi, et l'année suivante, ça va mieux. Donc je pense que c'est un peu ça aussi qu'il faut retenir, c'est que pour ceux qui débutent comme ça, faut pas qu'ils s'affolent, c'est dur, ils sont, voilà. Mais l'année suivante, je pense que ça sera largement mieux. Après, l'Occitane, ils en ont perdu rapidement, et ils ont eu avec Caramel et Chavan qui se sont approchés et qui ont terminé. Bon, même si pour les derniers, franchement, ils ont le mérite d'avoir terminé. Et du côté de Bagnac, pareil, ils en ont perdu deux rapidement. Et puis après, c'est quand même Campisco qui a fait la course. Et Mourelet qui va chercher une petite passe de 20, je crois, par là. Donc voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu de leur côté. Hein. Et après, c'est vrai que voilà, au niveau de la course, les espoirs, c'était vraiment très agréable à voir que tous ces jeunes, ils se sont battus. Qu'à l'arrivée, les 5 premiers, c'est 5 espoirs. Et il n'y avait pas de photo, on les a vu marcher à la ronde de l'Isard. Il y en a un qui marchait le week-end avant, en Bretagne. C'est plaisant à voir que les jeunes ont poussé les vieux, entre guillemets, quoi.
C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'espoir devant.
Ouais, beaucoup d'espoir devant, et franchement, ils sont costauds, et c'est intéressant à voir et à savoir, parce que là, pour les années qui suivent, c'est cool, quoi.
Ouais, bon,
d'avoir un champion de France jeune comme ça.
Moi, Marc, je suis, ça fait pas mal d'années que je suis champion de France amateur. Il y a souvent beaucoup, beaucoup d'abandon. Pourtant, quand on va au champion de France, c'est pas pour l'abandonner quand même. Et chaque année, il y a sacrés coureurs qui abandonnent et qui finissent pas. Qu'est-ce qui se passe, hein?
Ben, le problème, c'est que vu que c'est un circuit et que c'est exigeant, il y a ceux d'Aden qui font le boulot pour les coureurs. Donc, une fois qu'ils ont fait leur taf et qu'ils voient qu'ils peuvent plus tenir, ben, de toute façon, c'est une course d'un jour. Donc, le gars, bon, ben voilà, quoi, il préfère abandonner. C'est vrai que moi, je serai au départ, même si c'est pour faire dernier, je mettrai tout pour faire dernier, c'est quand même un championnat de France. Mais c'est pas évident, parce qu'après, tu vas prendre un tour ou des choses comme ça, et t'as plein de gars autour de toi qui abandonnent. Donc, t'es dans cette logique de te dire, de toute façon, ils sont là pour faire une place, quoi. Le mec, il a pas envie de faire 80e ou 90e championnat de France, il veut quand même faire une belle place. Donc, je pense qu'après, voilà, une fois qu'il a tout mis, que c'est fini, c'est une course d'un jour, c'est un championnat, donc on le voit aussi chez les pros, hein, ils vont pas s'arracher pour être 50e. Donc, c'est ouais. Et on aurait envie de dire au départ, bah, il faut le terminer, mais c'est, une fois que c'est fini dans la tête, après,
ouais, c'est
terminé quand tu sais que tu repars pas le lendemain, quoi. Ça me dit que tu vas faire une place qui est pas qui est très loin, quoi.
Ouais, mais enfin, par respect pour les organisateurs quand même qui mettent en place, quoi. Tu vois, bon,
ouais,
que tu abandonnes parce que t'es dans un jour sans vraiment à côté de la plaque et que bon, ça sert à rien, tu pourras prendre deux murs. Mais bon, voilà.
Mais le problème, c'est qu'après, même si tu veux terminer, les écarts vont tellement vite. Quand toi, tu te relèves et que devant, ça fait la course, que tu vas très vite prendre un tour. Et là, à partir de là, les commissaires, ça va commencer à être tendu parce que bah, c'est un championnat de France. Et là, par contre.
Alors, justement, est-ce que c'est les parcours qui sont trop durs et que, du coup, ou les coureurs qui sont pas assez préparés? Bon, après, comme tu dis, ceux qui ont fait leur boulot, et ils ont fait leur boulot d'équipier. Mais.
Il y a 194 coureurs au départ, là. Enfin, souvent, c'est quasiment 200. Et il y a une grosse différence de niveau entre les mecs qui vont jouer la gagne et ceux qui sont derrière. Donc, automatiquement, l'écart se fait assez rapidement. Il y a 200 mecs au départ, mais il y a 50 qui vont jouer la victoire. Déjà d'entrée, quoi. Dès que tu prends le départ.
Ouais, il y a Bruno qui nous. Bruno qui nous dit toujours, pour le championnat amateur, c'est le championnat espoir, 3 Bretons dans le top 4. Ces Bretons sont sacrément forts.
Ah, bah après, c'est bien parce que, enfin, c'est bien dans le sens où il y a eu l'orage, il a plu, c'était vraiment un camp de Bretons à la fin. Et comme quoi c'est pas des conneries, hein, parce qu'à la fin, ils sont là. Donc, c'était vraiment. Il a fait froid d'un coup, la flotte et tout. Il fallait avoir. Ouais, moi, je dis, c'est un beau vainqueur, quoi, chez les amateurs, même les places derrière, c'est les gars qui sont vraiment battus, quoi. Donc, de toute façon, on va les revoir, ils sont jeunes, c'est intéressant.
Bon, mais ça donne une image, en tout cas, une belle carte postale de ce qui s'est passé du côté de Vesoul. Niveau régional, il y avait d'autres infos, Mélanie, pour finir sur ça, avant d'embrayer sur le tour.
Oui, quelques infos, là, aujourd'hui, on a une sélection.
Bien sûr, nous sommes en région Occitanie, hein, on ouais, rappelle.
Occitanie, Pyrénées-Méditerranée.
Voilà.
Ouais, on a une sélection de jeunes qui est rentrée aujourd'hui de hier. En fait, ils étaient en stage de préparation pour les championnats de France de l'avenir sur piste qui ont lieu donc mi-juillet. Donc on a un bon potentiel, notamment avec Clément Delayen, qui est un excellent pisteur, hein, qui est arrivé dans notre région cette année, qui fait partie du club Lille Jourdain. Donc voilà pour ce stage. Et ensuite, donc demain, nous au comité, c'est une journée de grand départ.
Très grand départ demain.
Avec donc le départ pour le Trophée de France des jeunes cyclistes.
Les écoles de vélo. De voilà. Pupille à Minime. Voilà, tu pars demain pour Rochefort à côté de La Rochelle.
Il y a encore un peu de place dans la voiture.
Là, tu peux venir, ça nous fera du bien, un peu d'encadrement.
Donc ouais, trois jours de compétition avec plusieurs disciplines pour nos jeunes. L'an dernier, on a fini 3e, donc bon, ils sont super motivés et bon, nous, on est derrière eux. Et autre départ demain, départ pour la Coupe de France Espoir à Mareuil-Verteillac. Donc là, Max est content parce que donc Achille fait partie de la sélection. Ensuite, dans cette sélection, on a aussi Vincent Cabanel, Mathieu Caramel, Axel Crochard, Élie de Carvalho, champion régional espoir, et Rémi Verardo. Donc aussi,
comme parle d'Axel Crochard, il a sorti quand même un bon chrono au championnat de France. Quand même. Ouais. Si je ne me trompe pas, il prend la 10e place. Max, il a bien marché quand même.
Le chrono, il était encore plus dur que la course en ligne, franchement. Et on va sortir ce qu'il a fait. C'est vraiment un bon chrono, hein, franchement.
T'as un top 10.
C'est bien parce que c'était vraiment très très exigeant. Et d'ailleurs, à noter pour la sélection espoir, enfin, ce qui a été intéressant, c'est que malgré qu'ils ont abandonné sur la course en ligne, même Crochard, ils se sont aidés. Axel Crochard, Élie de Carvalho et Achille Métro, ils étaient ensemble, à chaque tour ils essayaient de se ramener, de s'aider. Donc déjà, c'est bien aussi de voir ça que il y a la manche qui arrive ils n'ont pas le même maillot, mais déjà ils ont compris qu'il fallait céder. Donc voilà, je pense que
l'esprit d'équipe, hein.
Ce week-end, ça peut être sympa. Il y en a déjà 3-4 là qui cèdent, à voir les autres, mais voilà, ça peut être sympa.
Ouais. Ouais, et puis il y a un chrono aussi sur Amareuil, donc peut-être que qu'Axel s'il a bien récupéré pourra jouer la gagne sur cette étape. Donc ben voilà pour les petites nouvelles du comité. Nous on prépare les championnats de France, notamment les championnats de France de l'avenir qui ont lieu fin août. Donc là nos sélectionneurs sont en train de repérer les jeunes en forme et vont préparer les stages en juillet et début août. Donc voilà pour l'actu. Et après au niveau du calendrier, bon là je vais pas vous sortir les courses du week-end, mais plutôt les gros événements entre guillemets qu'on va avoir cet été. Donc fin juillet on a la finale des Coupes de France cadets de la Coupe de France cadets des comités régionaux à Castelferrus, donc organisée par le CAC, donc le club de Castelsarrasin. Et après autre rendez-vous, on a la finale des interrégions dames à Saint-Sulpice, donc là aussi beau rendez-vous pour voir une belle course de féminines avec que des féminines sur une épreuve. Donc voilà pour les rendez-vous de cet été dans la région.
Merci Mélanie. Max, on va passer au Tour de France. Tu restes avec nous Max un petit peu ou...
J'ai encore un petit peu, ouais.
Quand on t'ennuie, tu nous le dis, on raccroche, d'accord.
Il y a Bruno qui nous disait que Valentin Madois et Lise Esbert seront stagiaires chez Fortuneo et David Godu, stagiaire à la FDJ. Ouais.
Et Lise Esbert, je crois quand même c'est un contrat pro.
Directement contrat pro.
Le 1er août. Et en plus de Godu, il y a Léo Vincent qui est stagiaire chez la FDJ.
Bon, on assure tout ça. Bon, parlons un petit peu de ce Tour de France, hein, sinon je vais vous faire parler d'autres sujets, moi.
Hein. Là, Max ?
Oui. Ah oui,
ben. Il est prêt. Non, je crois que tu mettais la musique, Julien, mais Julien n'était pas du tout connecté à nous. Non, c'est normal. Oui, le Tour de France, ben, je sais pas, moi, oui, on va pas parler.
Bonjour
de...
Bonjour et bienvenue à la présentation du Tour de France 2016.
C'était au mois d'octobre, j'ai l'impression que c'était hier, on voit pas les mois passer, c'est terrible dans Radio Vélo. Avec bien évidemment.
On était un peu plus habillé quand même, hein, le jour.
J'avais pas mis le bob en plus ce jour-là.
Et toi, t'étais même pas là. T'étais au téléphone. Hein.
À quoi ?
Ah oui.
Et t'étais à Paris, toi.
Ah oui, j'étais chez mamie, c'est vrai.
T'as bien mangé, mamie. Hein.
Je sais pas.
T'as bien mangé là-bas. Hein.
Ouais,
maintenant,
ouais.
Tu fais du footing, du vélo.
Tu vas voir. Dans la caravane cochonou, ça va donner.
Écoute ce qui se passe là, pour la présentation du tour.
C'est la musique, bon.
Ah bon.
Non, j'allais demander à Max s'il avait regardé la télé avant hier soir, mais bon, ça va faire des ans si on parle de ça maintenant.
Moi, je peux te dire qu'il ne l'a pas regardé.
Il était sur
la Nocturne d'Albi.
C'est, ouais. C'est vrai, ça, Max ?
Oui, je l'ai vu, je confirme.
Ouais, on était à Albi lundi soir. Ouais.
Bon, t'as rien loupé. Bon, l'actu du jour pour le Tour de France, bon, c'est vrai qu'on voulait faire un clin d'œil à l'ancien vainqueur de Paris-Roubaix, c'est ça, Johan Van Sumeren, quand même, qui arrête sa carrière, c'est
ouais,
ça?
Ouais, il a annoncé aujourd'hui, et son équipe aussi, il arrête pour des raisons médicales, apparemment.
Problème cardiaque.
Ouais, voilà.
Ouais, ça fait quelques temps déjà.
De nombreux examens, donc les médecins lui ont dit d'arrêter. Bon, voilà, beau vainqueur en 2011 de Paris-Roubaix.
Oui, vainqueur très, très sensationnel, en tout cas, cette année-là. L'info du jour concernant le Tour de France, c'est non pas que l'équipe Giant va avoir un maillot blanc, parce que ça, à la rigueur, ça passe au second plan, je viens de voir ça. On s'en fout. C'est surtout que la série Nasser Bouhanni continue. Depuis...
On ne commence pas.
On ne commence pas sur le Tour de France. Nasser Bouhanni, le Mathieu Bastaro du vélo, c'est vrai qu'une nuit maudite, décidément, c'est quand même... j'en rigole, mais c'est quand même. C'est sûr que les mecs de Cofidis qui font le chèque tous les mois, ils doivent moins rigoler quand même. Ils l'ont pris pour le Tour de France depuis deux saisons et ouais. Malheureusement.
Il va falloir qu'ils fassent une bonne Vuelta. Hein.
Il va falloir gagner des étapes sur la Vuelta. Ouais. En tout cas, c'est la grosse poisse pour Nasser Bouhanni. Et là, je voyais sur l'équipe.fr, il faisait un petit listing des relations Bouhanni-Tour de France. C'est vrai qu'en 2012, il était champion de France, il n'avait pas été sélectionné. En 2013, il avait été malade. En 2014, FDJ n'avait pris que Desmar, ne l'avait pas pris. L'an dernier, il avait chuté au mauvais moment. Et là, donc, c'est une fatidique nuit qui l'empêche de faire le Tour de France. Ce qui est terrible, c'est qu'il a pu faire les championnats de France, quand même.
Oui, mais bon, apparemment, la plaie qu'il avait, c'était pas bien soignée. C'est sans doute infecté. Bon, après, d'après ce qu'on nous dit, je pense qu'il peut s'en prendre, malheureusement, plus ou moins qu'à lui-même. Hein.
Cela ne nous regarde pas.
coup de boule.
Max, c'est quand même dommage de ne pas voir Nasser.
Ah oui, c'est sûr que là, pour les victoires françaises au sprint, c'est dommage, puis ça va changer un petit peu les sprints. Après,
il y aura Coquart.
Donc il faut. Ouais, il y aura Coquart. Démarre, il... non, je sais, si.
Et non, démarre, il fera la Vuelta sans doute, avec Boigny justement, le retour du duel.
Mais non, après, ce qu'il faut se dire, il faut penser positif. Moi, je me dis que ça va donner encore un peu plus de piment sur les courses où il ne sera pas une arrivée pour les sprinters, hein, parce que Cofidis, du coup. Même s'ils ont pris Aidé, c'est un baroudeur, hein, il va partir devant, il va partir de loin.
Aidé n'a pas volé sa sélection, hein, sur la route du Sud, je crois qu'il est autour du podium, il est mort 3-4e.
Il était très fort ce mois de juin, c'était même une surprise de ne pas le voir sélectionné, mais après Cofidis, et là il se retrouve bien couillonné, on fait une équipe très axée sur Nasser Bouani, du coup là on se retrouve avec plusieurs poissons pilotes.
On se retrouve aussi avec une équipe avec un Aidé, avec un Arnold Janssen et puis un Navarro, pourquoi pas,
ça peut donner une autre tactique. La chance de Laporte, Christophe Laporte qu'on a vu sur la Radio Vélo, de voir ce qu'il vaut en sprint.
Amené par des Geoffrey Soupe, des Borut Bozic. Brut Bozic, tu savais qui était?
Ah oui, je le savais.
Tu sais tout, t'es un collab, toi. Pierre Roland, tout ce qu'on fait, on se fait les petites équipes, là, vite fait. Enfin, toutes les équipes au quart de tour. Bon, chez AG2R, pas trop de surprises. Hein. Bardet est là, il aura Pozzo Vivo, grosse équipe. Il n'y a pas Perrault, mais ça sans doute.
Non, même si on l'a vu quand même à l'avant sur le championnat de France, il y a Paris Blom.
Ouais.
Qui souvent gagnait sa sélection sur le championnat de France, justement, qui faisait pas grand chose avant l'année.
Ça passait à pas grand chose.
Au bout d'un moment. Par contre, c'est une super équipe, avec Gastouer, on n'en parle pas souvent, qui est un super équipier.
Boulot,
Michael Chirel, qui est également un super équipier.
Franchier, qui était attaquant. Goujard, Villarnoux,
s'il a un souci sur le plat, et c'est pas Max qui va me contredire, Bardet, il y aura Goujard pour le ramener. Gros plateau, petit pignon, vite fait, bien fait dans le peloton.
Ah là ça fait plaisir. Nous, franchement, moi je voulais du Goujard et du Loubet, bon ça fait un sur deux, mais là un Goujard autour de France, en plus c'était chaud pour lui à la limite d'être pris ou pas, ça va envoyer, même s'il y aura des consignes, mais là c'est clair que à un moment donné il y a mal au jaune, donc il faut rouler, ou même si lui il en est échappé, là on peut y croire, parce que lui il est capable de tout.
On fait les équipes françaises, du coup, Fortuné au Vital Concept, malgré votre implication masquée pour la présence de...
Bon, c'est pas masqué, hein.
De Julien Loubet autour de France, Benjamin et Max. Donc, Julien n'a pas été sélectionné dans cette
équipe. Non, ce que je veux dire, c'est que Dan McLay le mérite. Il a gagné deux courses, Grand Prix de la Somme, et je perds la deuxième, c'est le Grand Prix de Denain, je crois, ou le Route Adélie, je sais plus. Bref, il mérite totalement. Sprinter, il va découvrir le tour. Venn, Eduardo Sepulveda également, qui sera en montagne. Christian Corso-Hansen l'accompagnera, mais bon, Christian Corso-Hansen.
Il accompagnera pas dans la voiture, quand même.
Non, mais Christian Corso-Hansen, je sais pas où c'est qu'il accompagnera, parce que cette année, il n'a rien fait. Et après, il y a Fonseca, qui est le seul breton de l'équipe, ce qui a un peu fait râler sur les réseaux sociaux. Il y aura Brice Feillu pour la montagne, mais bon, quand tu fais 10e du Tour de Savoie, derrière les moins de 20, on ne sait pas ce que ça vaut. Et après, il y a quelques coureurs, je ne vais pas trop en parler, mais
tu n'es pas neutre, tu ne peux pas.
Non, c'est pour ça que je ne vais rien dire, mais je passe pas moins.
Daniel Maquet qui avait gagné le Grand Prix de la Somme et le Grand Prix de Denain, donc.
Voilà. Lui, franchement, ça aurait été dommage qu'il ne soit pas.
Max, un petit écho là-dessus?
Après comme dit Benjamin, il y en a c'est pas volé, mais bon voilà, c'est vrai qu'on est déçu, et je pense que Belou il avait ça en tête depuis qu'il avait signé à Fortuneo, et que franchement ils auraient pu compter sur quelqu'un, je pense qu'elle allait être ultra motivé. Maintenant il y a des choix, après ça peut être aussi parce que l'équipe est bretonne, ça se respecte aussi, hein, l'équipe elle est bretonne, mais le Belou, comme il dit, n'a gros sur la patate, et le connaissant, il risque de quand même revenir faire quelque chose, parce qu'il aime pas lâcher affaire. Après on verra, mais c'est clair que ça fait réfléchir, et c'est pas comme ça qu'une équipe va, je dirais, ou elle garde une identité bretonne, ou alors elle s'ouvre un peu, mais si elle s'ouvre, il faut aussi jouer le jeu derrière, quoi.
Ouais, après c'est pas la sélection d'Armeno Fonseca qui est un breton, non, ça me dérange pas. Certains coureurs sélectionnés, on a parlé sur le groupe privé Radio Vélo sur Facebook. Moi, il y a notamment un coureur, je comprends pas pourquoi il a été sélectionné, et même avant les championnats. Et c'est ce que je trouve dommage. Mais même sans parler de Julien Loubet, Cette année, Fortuno, ils font pas de super résultats, mais ils donnent ma clé. Je vais, et Eduardo Sepúlveda, mais Eduardo Sepúlveda, c'est quand même blessé. Et je me dis, quand je vois la sélection, que je sais pas comment ça se passe, mais maintenant, je suis pas surpris que ça marche pas top dans l'équipe non plus. Hein.
Bon, voilà. On va parler des autres équipes, parce que là, vous allez nous faire le procès. FDJ avec Thibaut Pinot, un leader.
Objectivement, je le dis, il y a pour d'autres équipes, on a parlé pour Boigny, je veux dire, voilà, pour FDJ.
Bon, pas de surprise, on me fait court.
Si, moi, il y a un coureur que je trouve qui manque, et je dirais même peut-être deux. J'ai pas compris d'ailleurs qu'ils coupent leur tradition d'annoncer la sélection finale. Après le championnat de France, ils l'ont dit avant.
S'ils connaissaient le résultat.
Sans doute.
Vous avez ils avaient joué au loto.
Mais pour moi, il manque Kenny Ellison, qui a quand même montré une très belle forme sur le championnat de France.
Oui, bon, mais jusqu'à maintenant, il n'avait pas été...
Ouais, mais après, bon, on voyait qu'il commençait un peu à monter. Bon, je crois qu'il fait dans les 30 premiers de Tour de Suisse. Ce n'est pas non plus une performance extraordinaire, mais... Je sais pas.
Pas de Kenny, pas de Géniez, hein, étant donné que.
Bon, Géniez était blessé, donc là. Mais ouais, tu vois, pour remplacer Géniez, j'aurais plus vu un grimpeur. Après, Bonnet, c'est le poisson pilote de Thibaut Pinot sur le plat, c'est lui qui le place, tout ça.
Ouais, c'est aussi pour le reprendre, vu ce qui s'est passé l'année dernière, non ? Tu vois pas ça comme
après,
ça.
Après, j'ai relu là, dans les magazines, c'est vraiment Bonnet qui protège Pinot. Et peut-être que, bon, justement, la chute de Bonnet l'an dernier, Pinot, ça l'a fait cogiter.
Ouais, c'est possible.
Bon, Direct Énergie, tout va bien.
Ouais, franchement, une super équipe amenée par des Thomas Vauclair qui a de super jambes, Sylvain Chavanel,
pas de soucis. Brian Coquard en forme avec Borges, la victoire à la Route du Sud.
Avec Adrien Petit pour le lancer.
Avec Johan Gen,
c'est une forte équipe. Hein. Non, c'est pas mal du tout.
Sicard et James Bos pour la
montagne. Et puis c'est une équipe où c'est clair, tout est clair. Enfin, du moins, dans la tactique, on sait comment ça fonctionne.
Il y a souvent, pour la plupart des équipes, parce qu'on a parlé de Fortuneo, mais il y en a, ben, on a parlé de Cofidis, également de FDJ, il y a toujours des choses à redire. Je trouve que Direct Energy, c'est une sélection, je crois que c'est ce à quoi on s'attendait.
Ça discute pas, quoi.
Non, c'est... Tu comprends où ils veulent aller, en fait. Il y a Coquard pour les sprints, il y a les échappés Baroudeur et Baroudeur Montagne, et t'as également le classement général avec Sticard, ou qui pourra peut-être accrocher un top 10 avec... On sait que Sicard, de toute façon, même s'il est 19e, il peut prendre une échappée et remonter. Allez. Et c'est le seul représentant du Sud-Ouest.
Voilà, et après, dans les gros... On va remercier Max, parce que je crois qu'il a un rendez-vous après, mais il y a d'autres France.
Faut que je vous laisse.
J'allais
vous le dire, mais...
Bon, Max, on te demande pas ton favori, c'est pas la peine, du coup. Hein.
Non, je vais pas... On rabordera ça le premier jour, samedi, puis... Non.
Allez, on va dire un Astana pour toi, vu la couleur de ton maillot, bref. à bientôt, Max, ciao, et bonnes vacances.
Ciao.
Salut.
Ouais, à bientôt.
À bientôt, salut. Ciao. Et oui, c'est ça la vie de manager, il est partout cet homme. Bon, rapido, on va pas détailler toutes les équipes, mais je vais vous amener sur la route des pronos. Alors, je vais vous le faire à ma façon, en live, sans préparation, pour vous donner un petit peu tous les éléments. On a fait les équipes françaises. On a Astana, qui a Haro, qui s'est réservé pour Tour de France, et qui aura quand même Nibali dans l'équipe, avec une grosse armada, avec Fulsang, avec Sanchez, avec Tiralongo, Rosa, les équipiers, qui vont bien. BMC, nouveau leader, il s'appelle Richie Porte.
T'y crois pas
du tout, c'est normal. TJ Van Garderen, le leader le plus irrégulier de la planète, sera là.
Il y a Porte sur
Ah oui, il est plus leader, c'est bon, on est sauvé. Retour d'Amel Moinard, c'est cool ça quand même, dans cette équipe qui était dans les tours de Cadel Evans. Richie Porte, on va parler dans les pronos tout à l'heure. Bora Argon, bon, ben là, il faudra toujours qu'on m'explique. Ensuite, on passe à Cannondale. Non, tu veux rien rajouter pour Aragon, si t'as...
Non, c'est...
À mon propos...
La seule chose que je vais rajouter pour Aragon, c'est que...
Mais on peut prendre une équipe de moins. Prendre une équipe de moins,
non, c'est pas ça. C'est juste que je pense qu'ils ont été sélectionnés cette année pour que l'an prochain soit sélectionné Marseille et que ça fasse pas jaser. Allez, pronostic, l'an prochain, Marseille, qui est un continental pro, mais sera
écoute,
au Tour de
tout le bien qu'on pense de certains coureurs, notamment Quentin Bachet, on a envie de les voir plus haut, quoi. C'est une bonne raison de suivre.
Bora, je sais plus qui c'est qu'il y avait en...
Il y a Sam Bennett qui marche un petit peu, Yann Barthard aussi. Bon, c'est pas des grosses équipes, mais bon...
Bon, Non, mais je veux... Canondale avec Pierre Roland comme leader, ouais. On demande à voir.
Il n'y aura pas Talensky qui se réserve pour
très
la Vuelta.
Important. Ça, c'est très important.
Mais Pierre Roland.
Parce qu'il s'apprêtait à se marcher dessus il y a quelques mois. Hein.
Peut-être. Par contre, super bien pensé la sélection. Pierre Roland ne sera pas tant accompagné en montagne, mais bon, il n'en a pas forcément besoin. Par contre, sur le plat, il a de super coureurs pour l'entourer. Mmh. Et quand on se rappelle des débuts de Tour de France malheureux de Pierre Roland.
Ouais.
C'est un peu Pierre Roland, je le compare souvent à Luc Leblanc qui perdait 7-8 minutes sur le plat malheureusement. Là, il y a du monde pour le ramener à l'avant et pour qu'il arrive dans les conditions optimales sur la montagne qui finalement arrivera très tôt puisqu'elle arrivera dès le premier mercredi prochain. Nous serons au soir de la première étape de montagne du Tour de France.
Ah, tu vas ça trop
terrible.
Bien.
Terrible.
Ah oui,
tu vas arriver
au Lorient.
Tu vas finir sur France Télé. Mais je
surtout, ça va être des étapes qu'on va avoir très très rapides avant d'arriver à Super Lorient.
Bon, Dimension Data, c'est sympa aussi comme équipe. C'est un peu dans tous les sens.
Attention à Edvald Boasson Hagen.
Il peut y avoir pas mal d'étapes de gagner.
Je le... Autant qu'Avendi, j'y crois pas. Certains disent qu'il vient...
Avec un profil à la...
Il a battu Christophe au championnat de Norvège.
Ouais. Boasson Hagen, pas Cavendish.
Oui, non. Oui.
Marc Renshaw.
Et puis avec un profil à la Sagan, finalement, où il ne gagnera pas que les sprints tout simples.
Plus rouleur, un peu moins sprinter, mais ouais, ça fait plaisir de le retrouver. On en parlait encore.
Et puis les trois.
De le retrouver dans un rôle où il peut faire ce qu'il veut.
Et les trois Africains aussi, Solla, Viran, Van Rensburg et Tekla Imanot. Et Tix Quickstep, là, c'est intéressant aussi, avec bien sûr Kittel pour les sprints, Tony Martin pour les clavicules et les chronos, Dan Martine, dont on attend beaucoup. Non, à la Philippe, bien sûr. L'attraction à la Philippe, on en attend beaucoup sur Mantro.
Bien sûr.
Attention.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un coureur comme ça qui semble aussi à l'aise sur tous les terrains. Bon, je sais que ça ne va pas forcément me plaire, mais.
Et c'est pas forcément simple quand on est à l'aise.
C'est un orage à la mer, quoi. On dirait qu'il peut. Ou comme Peter Sagan, peut-être moins sprinter et moins vendréen et plus grimpeur, par contre. Non, franchement,
c'est quoi des étapes à la Philippe, du coup.
Ouais, t'as presque envie de te dire qu'à force de jouer les étapes, des fois, tu sais pas où il va aller.
Un top 10 est réalisable.
Ouais.
Sa saison n'a pas été trop lourde jusqu'à présent, Benjamin.
Non, parce qu'en plus, il a eu un début de saison, il a eu une mononucléose, je crois, cet hiver. Donc, moi, je pense que quand je le vois comme ça sur le championnat de France, pourquoi pas.
Ça va claquer des étapes, en tout cas.
Je me suis fait un top 10 et je le mets. Après, je me suis mis une petite liste de coureurs que je savais pas où mettre. Et à la fin,
j'attends de voir s'il y a Dan Martin dedans. Il n'y est pas dans ton top 10, là. Parce que lui, on en attend beaucoup. Aussi, Giant Alpecin avec Warren Barguil, dont on espère toujours des.
Qui sera secondé par Laurens ten Dam, qui a été recruté spécialement
pour lui.
Pour lui, parce que Laurens ten Dam, c'est un grimpeur, il n'était pas avec Tom Dumoulin sur le Giro.
Non.
Tom Dumoulin sera là également, ce qui pourra enlever un peu de pression à Warren Barguil.
C'est vrai qu'il est là.
Et on parle du retour de John Degenkolb qui revient de très loin après son accident de début de saison.
Très très belle équipe également. Yam Cycling,
qui va s'arrêter.
Ouais.
Donc on va sans doute voir des coureurs qui veulent se montrer. Alors on pourrait parler de Mathias Franck, Jérôme Coppel, comment il va être après ce qu'on a vu mardi. Et par contre, attention à Gerlinson Pantano qui est en super forme. Hein.
Qui est chaud, ouais. Non, c'est vrai que Coppel, c'est pas marrant pour lui. Katusha.
Personne n'y a forcé à aller voir.
Consulter l'homéopathe, là, bien sûr. Katusha avec Christophe.
J'y crois pas, cette équipe, tu
vois. Burrito, Zacharine,
il vient surtout pour préparer les Jeux Olympiques. Il va pas être remis de sa blessure qu'il a eue au Giro. Par contre, son objectif à lui, c'est les Jeux Olympiques.
On vient préparer les Jeux sur le tour maintenant. Bon, en même temps, c'est l'équipe nationale de la Russie, Katusha. Il fait ce qu'il veut, les mettre.
D'ailleurs, Burrito, Joachim Rodriguez, qui déçoit quand même cette année.
Moi, j'allais dire.
Ah, cette année, c'est un demi-tête.
Soit je ne l'ai pas bien vu.
On a parlé des équipes françaises où on ne savait pas trop où elles allaient. Katusha, quand même, ça se pose là. Les leaders ne sont pas.
Et notre ami Moreno, qui est parti chez Movistar, par contre.
Oui, il est allé retrouver Alejandro.
Dans la Dream Team. Burrito, qu'est-ce qu'il nous a fait cette saison? Pas beaucoup.
Il s'est peut-être préparé pour le tour.
Ou
pour les Jeux.
C'est jamais.
Oui, mais pourquoi pas aller claquer une étape du tour?
Second du Tour d'Espagne l'an dernier, notre ami Burrito, pourquoi pas, il a quand même claqué pas mal de pas beaucoup. Non, il a rien gagné cette année, c'est vrai.
Cette année, c'est fou blanc.
Bref, ouais, on l'a vu au 5e du Tour du Pays-Bas, 8e de Liège. C'est vrai qu'il a pas fait grand chose depuis. Rapidement, Lamprey, bon, on va pouvoir faire très rapide.
Attention, Mentiès, je sais pas comment ça se prononce. Rui Costa pour les étapes, oui. Mentiès pour le général. Ouais, Mentiès, je le vois dans les 10.
D'accord, carrément, petit ouais. Louis. Jumbo avec notre ami Tony.
Et Greppel pour le sprint.
Ouais, Van Mark pour les échappées.
L'auto et... Soudal, Tony.
Ah, non, je parlais de l'auto Jumbo.
Le Van Mark, j'entends.
Ah oui, non, l'auto.
Je ne comprenais pas.
L'auto Jumbo dedans.
C'est vrai qu'on a l'auto Jumbo, l'auto Soudal. Il y a beaucoup de l'auto.
Et on a la FDJ aussi.
On a la FDJ aussi, on peut en faire des paris. Tony Gallopin, ouais, dans l'équipe de Greipel. Et en parallèle, il y a l'autre loto, mais qui est finalement peut-être un peu moins
amené. C'est qui le leader de la loto Jumbo, s'il te plaît? Kelderman?
J'ai peine à te le dire. On va dire c'est Kelderman.
Kelderman, ouais.
Ouais. C'est lui.
Je n'y crois pas.
Bon, on ne va jamais avoir fini. Movistar avec la Dream Team. Quintana, Anacona, Erviti, Errada, Izaguirre. Il faut le dire deux fois. Moreno, Oliveira, Valverde.
Quelle équipe, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire de cette équipe? Parce que si c'est pour.
Je ressors pas mon argument que Valverde va porter préjudice à Quintana. Je sais que,
moi je le dis, en 2013, ça a été un boulet, en 2015, pas du tout. Bon. Par contre, après, si c'est pour rouler quand Froome est isolé, là, comme en 2013, pendant 100 bornes, oh bon Dieu, quand je repense à cette étape, hein, quand tu vois cette équipe, tu fais, ils peuvent tout faire, mais et après, ils vont rouler, là, un train. Bref, j'espère franchement que. Qui vont me surprendre positivement. Et quand je dis positivement, on soit d'accord, hein, je parle dans le déroulé des courses, hein, pas autre chose.
Merci pour cette précision, Benjamin. Aurica Greenedge, comme d'hab, hein, c'est la régalade. Petit changement quand même, ils ont Ruben Piazza cette année, qui était chez Lamprey, qui a claqué une étape l'an dernier, ou l'année d'avant. Belle étape.
C'était il y a deux...
C'était l'an dernier ?
C'était l'an dernier ou il y a
C'était autour de l'étape de Rodez.
Non, je sais
ah
plus.
Ah non, c'était il y a deux ans. Là.
Ah ouais, c'était quand même...
Et attention à Adam Yates.
Ouais,
pour le général, peut-être un top 10, top 15. Bon, ouais, top 15 plus que top 10. Mais...
Top 15 plus que top 10.
Ouais, peut-être même top 20. Bon, je sais rien.
Parce que Benjamin, c'est le seul homme qui vous fait le top 30 du prochain Tour de France. il avait gagné en 2015, notre ami Piazza, la 16e étape du Tour et la 20e du Tour d'Espagne. Oui, il avait fait les deux, souvenez-vous. Sky, bon, ben là, quand même, c'est...
C'est une équipe faite pour gagner le Tour de France.
On a rarement vu ça.
Ouais, avec une stratégie très bien rodée, parce que des coureurs comme ils ont, ils pourraient se réserver. Ils pourraient ne pas se réserver et tenter de faire des top 10 en même temps.
Sky n'a plus Wiggins, n'a plus Richie Porte, mais est-ce que là, c'est pas la meilleure équipe Sky depuis qu'on en a eu?
Non. En fait, ça dépend après. Mais si tu compares aux adversaires, 2012 écraser la concurrence par rapport à cette année.
D'accord.
Mais par contre, tu vois, ils ont une super stratégie qu'ils ont montrée l'an dernier, c'est-à-dire un pulse. Importe, bon, il n'est pas là cette année, mais on peut leur dire de prendre 10-15 minutes sur une étape et pour les préserver. Par contre, tu vois, l'an dernier, Geraint Thomas était très fort, je ne suis pas certain qu'il soit aussi fort cette année.
Partage ton avis.
Apparemment, il a fait un régime spécial pour perdre du poids et ça c'est pas passé. Hein. Apparemment, pour lui, il est trop maigre. Non, mais ça arrive des fois. Hein.
Pas faire trop. Bien sûr. Première, pas de force après derrière.
Ou tu chopes des maladies parce que t'es affaibli.
Il faut un peu de masse graisseuse un peu pour que le muscle fonctionne. Hein,
et Froome est quand même beaucoup moins impressionnant que aussi. Les années où il a gagné le Tour de France.
Aussi. Reste à voir si Landa va pas être dans la forme de son
Landa,
année.
Ouais, Landa c'est le.
Si jamais.
Ouais. Mais après, Landa, il faut que le leader puisse suivre.
Bon, dans le doute, Vasily Kiryienka roulera. Et puis,
sauf s'il fait très chaud, parce que Vasily Kiryienka, le problème, c'est que quand il fait très chaud, capoute.
Ah, mais ça se trouve, c'est le mois de juillet le plus pourri de l'histoire.
Au chrono, l'an dernier, il avait fait très très chaud, il était là quand même.
Mais tu verras que sur la plupart des étapes où il fait chaud, normalement.
C'est capoute.
Ouais, alors que quand il pleut.
Russie, il fait pas chaud, quoi. C'est...
Tranquille. Tinkoff avec Contador, Sagan, la Vitrinella, Kreuziger, Machka.
Il est pas tant entouré que ça en montagne, Contador. Bon, il y a Machka, mais bon, Kreuziger, depuis cette espèce de contrôle positif ou je sais pas quoi, là, c'est plus le même.
Non, c'était pas voulu. C'était pareil, c'était l'homéopathie.
C'était un faux positif, c'est ça.
Et
mais par contre, il y a une très belle équipe. Sagan a des équipiers comme Gâteau. Et attention, parce que Sagan, il peut tout, c'est un coureur qui peut tout faire, à l'instar d'Alaphilippe.
Ouais. Il peut monter le Mont Saint-Michel en haut arrière.
Ouais. Et puis, non, mais dans une étape de montagne, il peut être parti quelques cols avant et te faire un relais de 5-6 km, ouais, digne des meilleurs grimpeurs. Et après, se relever, bien sûr. Mais oui. Sagan, c'est un joker.
Voilà.
C'est dans ton jeu de cartes, tu
avec
le
son maillot
c'est...
champion du monde. Bon, ça
après,
va être
je pense qu'il va plus jouer des étapes qui seront de son acabit, ouais, plutôt que d'aller par un échappé. Mais pourquoi pas, il est capable de le faire.
Les, on se souviendra en 2013 que Contador a repris du temps sur Froome, sur une étape de plat, sur une bordure. S'il y a du vent, il a l'équipe que le Contador pour
faire les côté, premières étapes, c'est son propice.
Et avant vos pronos, Trek avec une moyenne d'âge sous les 60 ans cette année.
Oui, oui. Avec comme leader Mollema.
Avec Irizar, avec Zubeldia, avec Schleck, avec
l'homme invisible,
avec Rast.
Voilà. Kenseira, ça sera son dernier Tour de France. On va espérer surtout qu'il ne se fasse pas remarquer parce qu'il pleut ou quoi et qu'il veut annuler une étape. Comme
non,
si
on est content que Kenseira vienne faire ce jubilé parce que c'était un coureur que tout le monde a suivi et apprécié. Non, Benjamin, dis donc, tu m'aimais
pas. Moi, je l'aimais pas.
Ah ouais.
Moi, je l'aimais pas. J'aimais pas Bounen. Alors, je peux te dire que pendant longtemps, les Flandriennes,
c'est pas facile.
Bounen, si, Bounen quand même.
Non, mais après, chacun ses goûts.
Exactement.
Bon, le podium alors de ce Tour de France.
Allez, vas-y.
J'ai pas. Je vous donne les cotes, tiens, sur BetClick, puisque le site d'Unibet ne marchait pas. Froome à 2,05, Quintana 2,75, Contador à 6, Aroux à 16,50, Richie est également à 16,50, Thibaut Pinot 18,50, Nibali 28,1, le vainqueur du Giro. Van Garderen 35, bon après là, ça monte, là ça vaut le coup. Je sais pas où est qui là. Esredal est à 450. Enfin, bon, vous en voulez d'autres, en veux-tu, en voilà. Décote, Thierry Roland à 150-1, hein, c'est pas mal. Hein. Il y en a même, il propose même Rigoberto Urán, mais il est pas engagé, il me semble. Hein,
ouais, peut-être qu'à l'époque.
Je crois que les bookmakers de BetClick sont en vacances. Profitez-en, c'est porte ouverte. Le podium alors du Tour de France.
Je te sors mon top 10.
Allez, sors-nous le top 10. Dans quel ordre?
Je le fais à partir de la 10e place.
Allez.
10 Barguil, ouais. 9 Mentiès, ouais, maillot blanc Mentiès, à voir entre les deux, 8 Roland,
ouais,
7 TJ Van Garderen, 6 Fabio Aru, 5 Bardet, 4 Froome, 3 Contador, 2 Pinot, 1 Quintana.
Voilà, fais-le moi visualiser, s'il te plaît, parce qu'il est tard là.
Pour le maillot vert, Peter Sagan bon, devant Cocard. Parce qu'il y a beaucoup plus d'étapes dures cette année, d'accord, que les autres années. Meilleur grimpeur, je ne sais plus qui c'est que j'ai mis. Si j'ai mis Quintana, parce qu'avec le règlement
en général, c'est Froome qui l'a l'an dernier.
Ouais, enfin, ça sera un des leaders du général, donc je pense que ça sera Quintana.
Ouais. Quintana, bon, mais ouais, moi aussi, on a tous envie de mettre Quintana, mais aussi bien qu'à la fin, ouais, c'est Froome qui gagne, Benjamin, tu le sais.
Oh, pop. Et après, J'ai mis 5 coureurs, je savais pas trop où les placer, là. J'ai mis Janesson.
C'est les mecs à suivre.
Alaphilippe, Nibali.
Nibali finira pas le tour, si.
Non. Méfie-toi du requin.
Ouais, je me fais attention au requin.
Qui, est-ce que tu aurais misé sur sa victoire du Giro une semaine avant le final?
Bon, moi je mets sur Urán dans le doute.
Nibali,
fois, mais...
c'est comme Contador, c'est un champion, tu ne peux pas ne pas le citer.
Bon, et
tu peux pas.
Contador, il ne peut pas gagner le Tour, Benjamin?
Je pense que Quintana cette année va vraiment être au-dessus de tout le monde. Sur les courses qu'il a fait, Quintana, quand ça lui correspondait, il a été monstrueux. Et Quintana, c'est un coureur qui, sur 3 semaines, est encore meilleur que sur 1 semaine. Contador, il fallait faire un choix, j'y ai pensé.
Froome a la meilleure équipe, mais Quintana est le meilleur coureur du moment.
Pour moi, Quintana en montagne... Bon, sauf si je chute ou quoi.
Est-ce que la montagne va assez parler sur ce parcours? On n'a pas eu le temps d'en parler. Ouais. Ben, il a été présenté.
Bon, après, s'ils attendent que Froome déclenche la moulinette à 6 km du sommet, où c'est là son type d'effort préféré, il y a match, bien sûr. Mais Quintana, si tu fais une étape de montagne usante, en roulant fort, plusieurs cols avant, comme par exemple t'as du Tourmalet, j'attends de voir qui peut le mettre en difficulté.
Tu mets Pinot sur le podium, pas Bardet.
Je pense
que pas y avoir une surprise,
Bardet,
là, inversement.
Je pense que Bardet est plus polyvalent que Pinot. Mm. Mais je pense que Pinot, sur les 3 caractéristiques fortes pour un grand tour, c'est-à-dire récupération contre la montagne, est devant Romain Bardet.
Il y a 2 chronos cette année.
Ouais, un vallonné,
ouais,
et un en côte.
Le deuxième, celui de 16 et en côte, hein, de 17 km.
Avant veille de l'arrivée, non?
Avant veille.
Il y a deux ou trois étapes.
Il reste trois jours après, quoi. On va donner notre top 3, on va rendre l'antenne quand même parce qu'on va se faire virer à force. Bon, tu enlèves juste TJ Van Garderen de ton top 10 là parce qu'il a rien à faire là. Et tu...
et je le remplace par Landa ou Nibali, allez.
Bon, et tu nous dis un mot sur Fabio Aru quand même, Benjamin. Notre Italien qu'on espère va faire le feu à montagne, ouais. On n'y croit pas trop, c'est ça?
Je sais pas, parce qu'Astana, quand Nibali gagne, il était à la rue en 2014 sur le Dauphiné, il était tout feu, tout flamme sur le Tour de France, mais. Aru sur le Dauphiné, il a gagné une étape, donc grand coureur, mais il n'était pas en forme quand même. Il n'était pas, par rapport aux autres, il était loin du niveau. Maintenant, Aru, c'est un vainqueur de grand tour, il est chez Astana. Je l'ai mis top 6, mais franchement, je ne savais pas du tout le mettre. Bon. C'est vraiment je sais pas.
L'inconnu.
Ouais.
C'est l'inconnu.
Par contre, Porte, j'y crois pas du tout. Et Dan Martin, pareil.
Dan Martin, pareil. Bon, il faut donner votre top 3 avant de rendre l'antenne. L'an dernier, on vous rappelle, c'était Froome, Quintana, Valverde, le top 3. Sur le Dauphiné, c'était Froome, Bardet, Dan Martin. Souvenez-vous aussi. Si ça peut vous aider, Benjamin s'est mouillé. Il a mis notre ami Quintana à la première place devant Pinot et...
Contador.
Pinot et Contador autour de la table.
Moi, je dirais Quintana, Froome, Contador.
Quintana, Froome, Contador pour Mélanie. D'accord, Julien, c'est pas évident.
Non, moi je mets Quintana. Je vois bien Contador sur le podium avec Pinot, la troisième place.
Ouais. Moi, je mets un.
On a le même podium, pas tout à fait le même ordre.
Ouais. Moi, je vais mettre Froome vainqueur.
Ah, donc,
t'as des indices ou quoi là?
Ouais, devant Landa et. rigolez tant que c'est pas fait, les gars. Non, parce que vous rigolerez pas à la fin du mois de juillet. Non, plus sérieusement, Froome, Quintana, Landa. Voilà.
Ouais, Landa. Ouais, sur le Tour de France, j'y crois pas.
Non, je tente un gros coup, c'est tout. Voilà.
Je rigolerai, Jordan, si tu le réussis.
Moi donc, je passerai directement au JO. De l'Euro au JO. Bref, vous n'allez pas vous ennuyer cet été. On se retrouve peut-être très bientôt. Faut rendre les clés, là. Hein. Ça y est, on va nettoyer le studio. Ça a été un plaisir, en tout cas, de suivre cette saison ensemble, cette nouvelle saison. La première saison de Mélanie et de Benjamin, quand même. Je vais pas vous applaudir parce qu'on n'est pas très nombreux, là, mais... Bon, c'est pas
merci,
Laurent Ruquier et compagnie ici. Mais
bon. Merci à vous de nous avoir accueillis. Moi, j'ai passé une super année. Je n'ai pas pu être là tout le temps, mais ça a été un plaisir d'être soit en studio, soit au téléphone avec vous.
Mélanie ?
Ouais, non, bon, moi aussi, ça a été une super expérience. À l'an prochain. Et bon, à la fin, j'étais plus trop là parce que bon, j'avais mes petites études, mais. À l'an prochain pour de nouvelles aventures.
Et oui, on était en difficulté ces dernières semaines, les uns les autres, nos petits emplois du temps.
Mais
on a essayé de tenir, on a dit des bêtises pour compenser un petit peu, on a essayé de vous faire sourire, d'apporter de la bonne humeur. Et notre seule ambition, ça reste celle-là, celle de faire l'émission qu'on voudrait tout juste écouter à la radio. Voilà, on propose des émissions qu'on ne peut pas écouter, donc on l'a fait. C'est pas plus mal.
Et quelques bons directs aussi, on se rappelle Laurent Delizard,
Laurent Delizard, Montastruc, sans être malade malgré le froid, voilà.
On avait fait un direct sur la Route du Sud, voilà.
On se croisera peut-être sur le Tour de France, par-ci par-là, avec Julien qui fera une tour de moto, avec des petits tours dans la caravane, avec une petite étape Andorane sur le bord de la route, voilà.
Ou sur la côte de Revel.
Sur la côte de Revel, voilà. Mélanie, on ne sait pas trop.
Moi, je fais
les
Jourdains
Payolle
en voiture.
Voilà, c'est déjà bien. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages, des petites idées pour la suite. Le Twitter @radiovélo31. Bon été à tous, à très bientôt.
Bonnes vacances,
bonnes vacances.